Tête FM, bien sûr, sans surprise, elle envoie tout l'amour qu'elle a. La radio associative, elle est là pour que tu montes le son. Elle mouchoir, anime des chroniques, et Johnny sème la panique. Accepte et comprend le trois cons, le conditionnement de contrôler la consommation. Elle considère comme conforme la liberté qui se soupçonne.
Bergerus 1236, où se trouve la vérité? Je suis très très pressé de découvrir avec vous où elle peut se trouver. Car j'ai fait des recherches, j'ai réfléchi, mais je réfléchis mieux à voix haute et avec vous. Donc, pour commencer, comme connu et repris dans mes barges russes, rien n'est vrai, tout est permis, un aphorisme qui est de Friedrich Nietzsche, dans Zarathoustra, ainsi par les Zarathoustra, qui a été, moi je l'avais connu personnellement par William Burroughs, rien n'est vrai, tout est permis, Hassan Aïsaba, lorsqu'il écrivait avec Brian Gison à Tanger notamment, avec ses hachichins et compagnie, ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est là que j'ai découvert rien n'est vrai, tout est permis. Et donc là, je vous avais déjà dit, si plusieurs d'entre vous, si certains, au moins un d'entre vous suit, j'avais bouclé un cycle. J'avais commencé avec William Burroughs avant de commencer mes quotidiennes, avant de commencer même peut-être la radio et JTFM. Oh non, je bossais déjà dessus. Enfin bon, c'est un travail de longue haleine, William Burroughs, et déjà il y avait rien n'est vrai, tout est permis. Et puis là, récemment, dans l'année là, je découvre que c'est de Nietzsche. C'est Nietzsche qui l'a dit en premier. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai bouclé un cycle. Je suis revenu, c'était excellent quoi. Une quinzaine d'années avaient passé, 20 ans peut-être, et enfin j'étais content d'avoir bouclé un cycle. Et là, j'ai fait une longue pause, comme j'ai pu dire dans les émissions passées, là, qui a duré près d'un peu plus d'un mois de chronique. Parce qu'avant, c'était tous les jours pendant 5 ans, comme j'ai dit. Et je me suis intéressé à l'époque pré-socratique, d'autant plus, et notamment sur le traité du non-être de Gorgias. Rien n'est vrai, tout est permis. Donc là, j'ai lu hier soir. Et je vais vous... Vraiment, avec vous, on va redécouvrir ce que j'ai souligné. Donc en plus, il est dur à trouver cet accent. Je suis content de l'avoir. Je l'avais dans un vieux bouquin, de Les penseurs grecs avant Socrate. Excellent, je suis hyper content. Ah, hyper content dans ce livre intitulé « Sur le non-être ». Ou sur la nature, Gorgias établit successivement trois principes. L'un, le premier, qu'il n'y a rien. Le second, que s'il y a quelque chose, ce quelque chose est inconnaissable à l'homme. Et le troisième, que même si ce quelque chose est connaissable, il ne peut être ni divulgué, ni communiqué à autrui. Et là, par ça, donc je ne sais pas si vous avez suivi, c'est dur de comprendre à l'oral, bien sûr, mais c'est le côté invisible, en fait. C'est tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça qui est question dans le non-être. Je vais vous passer des trucs, je vais vous expliquer en même temps. Donc, ainsi donc, le non-être n'est pas. Car si le non-être est, il est à la fois et ne sera pas. Car dans la mesure où il n'est pas pensé comme être, il ne sera pas. Mais dans la mesure où il est non-être, il sera à nouveau. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un non-être, donc en fait, il est. Mais le non-être n'est pas. Tu vois? Et le mec, il deux pages à dire ça... Or, il n'est pas possible que l'être ne soit pas, et par conséquent, le non-être ne sera pas. Parce qu'un être est existant, donc c'est pas possible qu'il ne soit pas. Et au reste, l'être n'est pas. N'est pas, quoi. Car si l'être est, il ne peut être que non-dérivé ou dérivé. Alors, dérivé ou non-dérivé ou dérivé, ça veut dire qu'il vient de quelque part. Ou qui ne vient pas de quelque part, quelque chose. À la fois non dérivé et dérivé. Alors, or, il n'est ni non dérivé ni dérivé, ni à la fois non dérivé et dérivé. Comme nous allons le montrer. Donc, l'être n'est pas. Ouais. On va voir ça, hein. Car si l'être est non dérivé, donc moi j'ai... il a mis entre parenthèses, et c'est par là qu'il faut commencer. Non dérivé, ça veut dire que c'est pas, pas, je pense que c'est par rapport aux réincarnations. Aux pas aux résurrections, parce que là ça devient plus religieux, mais aux réincarnations. Je suis persuadé, je ne suis pas le seul, que nous sommes... notre âme est immortelle et notre esprit meurt et il se réincarne après dans un autre esprit. Bon. Et donc c'est ça, le fait d'être dérivé, pour moi, à mes yeux. C'est comme ça que je comprends. Alors, car si l'être est non dérivé, il n'a aucun commencement. Ah ouais, si il n'est pas dérivé, s'il n'est pas une réincarnation, ou alors il commence comme ça, mais... c'est bizarre. Là, par contre, faut penser cosmiquement parlant avec l'infini et tout, quoi. Alors, car tout ce qui naît a un commencement. Mais ce qui, par nature, est non dérivé, n'a pas de commencement. Ouais, ça c'est ce que je disais, les réincarnations. Et n'ayant pas de commencement, est infini. Voilà. L'âme est infinie. Et elle ne peut pas mourir. Enfin, elle ne peut pas s'éteindre. Or, s'il est infini, il n'est nulle part. Ouais, ok. Des fois, il se contredit un petit peu, le copain, là. Mais bon. Le contenant est plus grand que le contenu. Or, rien n'est plus grand que l'infini. Il en résulte que l'infini ne peut être quelque part. Il est partout, en fait. Alors, c'est la même chose que ce qui le limite et ce qu'il contient. Et en cas l'être sera double... Voilà, là, ça commence à être intéressant. L'être sera double à la fois lieu et corps. Physique et esprit. L'âme est dans le physique et dans la tête. Le corps est un outil. Alors oui, Gorgias, il est de moins 480 avant Jésus-Christ. Ok ? Donc c'est un présocratique, un vrai. Par conséquent, l'être n'est pas non plus en lui-même. Si bien que si l'être est non dérivé, il est infini. Et s'il est infini, il n'est nulle part. Et s'il n'est nulle part, il n'est pas. Et c'est là qu'en fait, ça va pas, parce que il oublie qu'on est dans un corps. Donc, à la fois, on est infini, notre âme est infinie, mais notre corps, tu vois, il y a la dualité. Il y a la physique et l'esprit, quoi. L'esprit est infini, enfin, plus ou moins, et appartient à l'infini, et le corps, bah, lui, il appartient à la terre, à la vie présente, quoi, à l'existence, si petite soit-elle, quoi. Car s'il était né, il serait né de l'être ou du non-être, mais il ne l'est pas de l'être, car il est existant, il n'est pas né. Mais il existe de tout temps. Bon, on s'en fout un peu. Il ne peut pas non plus naître du non-être. Le non-être ne peut donner naissance à quoi que ce soit, pour la raison que ce qui donne naissance à quelque chose doit nécessairement participer à l'existence. Donc là, on est en plein dans la dualité. Suivant les mêmes raisonnements, il ne peut non plus être à la fois non dérivé et dérivé. Ces propositions se détruisent l'une l'autre. Et si l'être est non dérivé, il n'est pas né. Et s'il est né, il n'est pas non dérivé. Donc, puisque l'être... Donc tu vois, au début il parle de l'origine. Quelqu'un ne peut pas être dérivé et non dérivé. Puis après il dit, ouais, mais s'il est né, il ne peut pas être non dérivé. Donc tu vois, il sait plus quoi dire. Donc à mes yeux, il pédale un peu dans la semoule. En tout cas, son texte fait fureur dans l'Antiquité. Mais bon. Ou alors je comprends vraiment mal, quoi. Peut-être. Là, les mecs, les profs, s'il y en a qui écoutent, ils doivent dire, il est complètement taré, il comprend rien. Donc, puisque l'être n'est ni non dérivé ni dérivé, ni l'un ni l'autre, l'être ne saurait exister. Et par ailleurs, s'il existe, il est un ou plusieurs. Ah là, j'ai trouvé ça cool. S'il existe, il est un ou plusieurs. Encore une question. Or, il n'est ni un ni plusieurs, comme nous allons l'établir. Et c'est là que moi, je ne suis plus d'accord avec lui. Ainsi, l'être n'est pas. Alors, il parle d'attributs un peu comme la philosophie de l'islam. Ça, je l'ai lu, mais je ne vous en ai pas fait part. J'ai lu un bouquin sur les philosophes d'islam. Oh, ouais, ben, c'est mortel, quoi. C'est jusqu'au 12e siècle, je crois. Ouais. Mais c'est admirable. C'est admirable. Ben, les philosophes chrétiens, mais ils disaient un peu ils disaient la même chose, quoi. C'est génial. Bon. Et d'autre part, il n'est pas plusieurs, car s'il n'est pas un, il n'est pas non plus plusieurs. La pluralité est, en effet, une somme d'unités, et le moment qu'on supprime l'unité, on supprime aussi la pluralité. Mais pourquoi il n'est pas un? Parce qu'il n'existe pas. Mais il n'existe pas parce qu'il est dans l'infini. Donc ça, c'est le non-être. Mais ça, j'ai trouvé que c'était carrément anti-schizo, quoi. Moi qui suis à fond là-dedans, la schizophrénie non clinique, ouais, c'est anti, ça va pas, quoi. Pour moi, c'est pas bon. Bah, c'est à mes yeux, c'est un traité qui est très écrit d'une façon très aristotélicienne, très la logique fermée, quoi. Ouais, tu dis ça, donc ça, et point. Tu vois. Car si ce que nous pensons, comme le dit Gorgias, n'existe pas, par cela même, on ne pense pas l'être. Car les contraires ont des attributs contraires et le non-être est le contraire de l'être. Ouais. Et là, il parle de feeling, j'ai souligné, j'ai annoté. Feeling d'état, du verbe être. Donc, de même que ce qu'on voit est dit visible par ce qu'on le voit, ce qu'on entend audible par ce qu'on l'entend. De même que nous ne rejetons pas le visible parce qu'il n'est pas entendu, ni ne négligeons l'audible parce qu'il n'est pas vu. Chacun relevant de son propre sens et ne devant pas être jugé par un autre indifféremment. Ainsi, ce que nous pensons, même si nous ne le saisissons pas par la vue ou par l'ouïe, sera parce qu'il est saisi par son critère particulier. C'est-à-dire que là, quand j'ai souligné ça, je me suis dit, ouais, tu peux voir des choses et penser quelque chose qui n'existe pas. Là, je dis ça, je pense à des fantasmes, des trucs qui n'existeront jamais. Ou alors, tu peux entendre quelque chose et te faire une image dans ta tête qui n'existe pas. Mais ou alors, vraiment, qui existe. Si on peut parler de clairvoyance ou quoi que ce soit. Bon. Et même en admettant qu'on le saisisse, il est incommunicable à autrui. Voilà. C'est ça. Là, c'est la pensée du côté invisible. Tu penses un truc, mais tu peux pas comprendre. Tu vois, c'est ça. C'est ce que tu dis. Ouais, tu comprends rien. Ou j'arrive pas à l'expliquer. Ça me dépasse. Voilà. Ce genre de choses. Car le moyen pour nous de signifier, c'est la parole. De même donc, ce qui est visible ne saurait devenir audible, et réciproquement, de même, puisque l'être est donné comme extérieur, il ne saurait y avoir de parole vraiment à nous. Ce n'est pas la parole qui traduit ce qui est hors de nous, mais bien ce qui est hors de nous qui devient révélateur de la parole. Donc la communication, je vous parle pas de la communication de consommation, quoi. Je parle de la vérité. On demande le nom de la Vierge russe, je demande, c'est où se trouve la vérité? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est notamment. Elle est tout autour de nous. Encore faut-il la laisser nous suggérer ce qu'elle veut, tu vois? Encore faut-il écouter ce qui est autour de nous. Ça, c'est l'infracommunication, encore ai-je à noter. Et pour finir, alors là j'ai annoté côté invisible, car le non-être ne pouvant ni être connu ni naturellement communiqué par autrui, il ne saurait en exister de preuve. Je vous le redis, c'est la dernière ligne. Car le non-être ne pouvant ni être connu, l'autre côté, ce qui se passe de l'autre côté, ni naturellement communiqué à autrui, il ne parle pas, on l'entend. Mais c'est pas naturel, quoi. Tu entends, mais tu peux pas l'expliquer. Si Barrett avait dit un jour, vous ne pouvez pas m'entendre, mais moi je peux. Même si, mais moi je passe pas par des drogues, hein, par contre, pour entendre des choses. Hein. Et puis entendre, c'est pas, t'entends pas, quoi. C'est le feeling. Tu te dis, bon, là maintenant, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc tu dis, pour que les gens comprennent, tu dis j'entends des voix, mais c'est pas ça, en fait, pas vraiment. Dans les films, les mecs, ils entendent des voix, mais c'est pas vraiment ça non plus, quoi. C'est Hollywood, ça, encore. Donc, alors je redis tout encore une fois, parce que je m'écarte. Car le non-être ne pouvant ni être connu, ni naturellement communiqué à autrui, il ne saurait en exister de preuve. Et c'est bien, voilà, par ce phénomène, qui n'existe, ne peut pas exister de preuve du côté invisible, qu'il y a le non-être du côté invisible. Il y a le non-être de cette force de celui qu'on... Enfin, de la force toute puissante, de la force transcendantale. Et j'ai annoté sur un post-it maintenant, la résurrection fait de l'être un non-être infini. La réincarnation, ouais. Fait de l'être un non-être infini, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'être est infini à la fois lieu et corps, ça je vous l'ai dit. Mais l'être est dérivé et non dérivé. Mais le côté invisible, c'est cette force qui est incroyable. Super, on a pu écouter Playground de Wayne Shorter. Et Playground, c'est un morceau, je trouve, qui colle parce que c'est un terrain de jeu. Le cosmos est un terrain de jeu. Où on soit, on se rencontre. Ouais. On peut se trouver. Donc maintenant, pourquoi, comment m'est venue cette idée de faire une émission sur la vérité ? Où se trouve la vérité ? Parce que c'est une question qui m'est venue à l'esprit en lisant Saint Thomas d'Aquin sur la vérité. Pareil, ce livre s'est présenté à moi dans une bouquinerie. Et alors là, sur son article 1 de son livre sur la vérité, la question porte sur la vérité, est-il écrit. D'abord, nous cherchons ce qu'est la vérité. Nous cherchons, il faut chercher, il faut trouver. Augustin, au livre des soliloques, dit que le vrai est ce qui est. Ok, bon, on va s'arrêter là pour l'instant, on reviendra dessus tout à l'heure, peut-être. L'article 2. Deuxièmement, nous cherchons si la vérité se rencontre principalement dans l'intellect plutôt que dans les choses. Nous cherchons si la vérité se rencontre principalement dans l'intellect plutôt que dans les choses. Il semble que non, dit Thomas d'Aquin. Le vrai, en effet, comme on l'a dit, est convertible avec les temps. Mais les temps se rencontrent principalement dans les choses plutôt que dans l'âme. Ok ? Un peu plus matériel, quoi. Les choses sont en l'âme, non par essence, mais par leur espèce. Ouais. Maintenant, si la vérité se trouve principalement en l'âme, elle ne sera pas l'essence de la chose, mais sa ressemblance et son espèce. Et le vrai sera l'espèce de l'étang existant hors de l'âme. Ouais, bon, pas très intéressant. Après, article 4. Quatrièmement, nous cherchons s'il y a une unique vérité par laquelle toutes les choses sont vraies. Il semble que oui. S'il y a une unique vérité par laquelle toutes les choses sont vraies. Ça, c'est intéressant. Et là, il dit, mais le temps se rapporte aux choses temporelles comme un temps unique. De la même façon, la vérité se rapportera aux choses vraies comme une vérité unique. Le vrai est ce qui déclare l'être. Comme rien ne peut manifester quelque chose à l'intellect, sinon en vertu de la vérité première et divine, toutes les vérités sont, d'une certaine manière, une en ce qu'elles meuvent l'intellect, comme toutes les couleurs sont une en ce qu'elles meuvent la vision. Ouais, mais c'est pas pour ça, en fait, que moi j'avais... C'était pas ça. Je... Parce qu'en fait, je voulais continuer par rapport au titre de l'existence. Par rapport à rien n'est vrai, tout est permis. C'était ça le but. Donc, article 10. Dixièmement, nous cherchons s'il y a une chose fausse. Bon, lui, il est toujours dans son délire de la vérité. Hein. Donc, dans son livre Les Soliloques, Augustin dit que le vrai est ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, et là, le donc, je me mets une interrogation, quand même. Je note une interrogation. Le faux est ce qui n'est pas. Si le vrai est ce qui est, le contraire, c'est le faux est ce qui n'est pas. Mais ce qui n'est pas une chose. On vient un peu au délire de Gorgias. Mais ce qui n'est pas une chose. Ainsi, aucune chose n'est fausse. Là, c'est pas chose, c'est pas un truc qui, un truc, une altercation. C'est une chose, une tasse. Tiens. Une chose ne peut pas être fausse. Je pense que c'est ça que veut dire Thomas d'Aquin. Certains ont estimé que Dieu était un corps, et puisque Dieu est l'unité par laquelle tout le reste est un, ils ont estimé en conséquence que le corps était l'unité même à cause de sa ressemblance à l'unité. C'est pourquoi le corps est appelé fausse unité, en ce qui... j'ai un peu lâché, là, j'ai plus trop compris ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, là, j'ai annoté. C'est là que j'ai annoté où se trouve la vérité, quoi. Parce que il cherche, il raconte plein de trucs sur la vérité, mais où est-ce qu'elle est, la vérité? Il ne dit pas. Onzième article. Nous cherchons si la fausseté est dans le sens, est dans l'essence. Et c'est peut-être le meilleur, en fait, l'article 11. L'intellect est toujours droit, comme il est dit au livre 3 de l'âme. C'est un livre. Mais l'intellect est la partie supérieure de l'homme, or comme les autres parties à sa rectitude, or comme les 16 autres parties sont conformes à sa rectitude, de même que dans le macrocosme, les inférieurs reçoivent leur disposition du mouvement des supérieurs. Le sens, donc c'est très hiérarchique, le sens qui est une partie inférieure de l'âme sera toujours droit. Et bien, c'est là qu'en fait il fait des erreurs. Enfin, après, tu vois, lui il écrivait ça, c'était au XIIIe siècle. Plusieurs siècles ont eu le temps de se faire conditionner. Exactement. Se font contrôler pour être conditionnés à travers les fruits de la consommation. Donc, le temps a changé quand même. Hein. Et douzièmement, on cherche si la fausseté est dans l'intellect et il écrit il semble que non. Voilà. Donc c'était assez intéressant de lire ça quand même, ça et puis surtout le Gorgias. Allez, c'est reparti pour un tour, je vous dis à la prochaine, merci de m'écouter, c'est super, merci infiniment. We'll be right back.
moi, je reviens. Donc là, on vient d'écouter Bloodsucker, donc suceur de sang, pour revenir, bien sûr, au contrôle, qui nous conditionne et qui nous fait consommer des choses plus ou moins utiles, qui est de Deep Purple, de leur album Deep Rock. Donc, où est la vérité? Je n'ai pas répondu à la question. Alors, est-ce que je peux répondre à la question? Je peux, oui, mais pour moi. Pour moi, la vérité est intérieurement, intérieure, l'infini, le silence, et surtout, la vérité, elle doit être pour l'autre. Pour l'autre. Et par là, toutes les choses, à mes yeux, doivent se tourner vers l'autre. Après, il y a différentes façons de communiquer. Tu vas pouvoir dire avec énervement quelque chose, mais qui va être pour l'autre. Afin de trouver une paix intérieure. Mais ça, c'est pour moi. Donc, je dis bien, c'est pour moi, c'est pas une vérité générale.
Salut, c'est Jeanine. Il y a Helmut Schwartz qui m'a demandé de dire que ces émissions, elles sont le mercredi à 21h30 et que Johnny Tiefbeck, il m'a dit aussi que lui, c'est tous les jours, ça s'appelle la barge russe. Et ça porte sur l'actualité, il m'a dit, philosophie, et puis, ouais, et c'est à 14h05. Merci. Alors, Helmut, ses émissions, c'est musical. Et c'est par quinzaine, j'ai oublié de dire. C'est par quinzaine, ouais. C'est alterné avec une autre mission.